Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture. Spectacle, visite, initiative, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. NCIS, les experts ou Bones sont autant de séries qui mettent à l'honneur l'incroyable travail d'enquête des sciences médico-légales. Depuis la probable découverte de la dépouille de Joachim du Bellay, les archéologues et les experts lèvent enfin le voile sur un mystère qui dure depuis plus de 500 ans. L'occasion pour nous de faire un tour d'horizon sur ce personnage essentiel de notre histoire littéraire avec Marie-Lise Six, présidente des Lyriades de la langue française. Et dans la deuxième partie de notre émission, nous parlerons de la Collégiale Saint-Martin à Angers. Ces 1000 mètres carrés d'images projetées se transforment et nous invitent à s'immerger dans une nouvelle installation de la compagnie Lucilum. Elle est dénommée Profondeur et pour en parler avec nous, l'un de ses créateurs, Philippe Leduc. Et avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, les Dominique et Marie. Bonjour.
Bonjour Dominique.
C'est parti pour 30 minutes ensemble. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. La sépulture du poète angevin Joachim du Bellay aurait été retrouvée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bénédicte, vous revenez sur cette découverte spectaculaire.
Alors oui, imaginez, 5 ans après l'incendie, on nous a présenté le bilan des fouilles archéologiques. Une 50aine d'archéologues à l'œuvre, et là, ils nous ont dévoilé l'identité de l'occupant de l'un des 2 cercueils plombés découverts sous la croisée du transept.
Vous nous parlez d'un cold case vieux de plus de 500 ans.
Alors exactement, toutes les analyses ont été faites à l'Institut médico-légal du CHU de Toulouse, un laborieux travail d'enquête. Le portrait robot du squelette correspondrait vraisemblablement à la dépouille du poète angevin Joachim du Bellay. Alors Marie-Lise Six, vous êtes la présidente des Lyriades de la langue française, alors on expliquera tout à l'heure ce que c'est. Présentez-nous assez rapidement le personnage de Joachim du Bellay.
Eh bien, bonjour à tous. D'abord, merci de votre invitation. Joachim du Bellay, peut-être le savez-vous, est angevin puisqu'il est né à Liré en 1522. On s'accorde à peu près sur cette date et il appartient à une famille chevaleresque qui possédait des terres dans Anjou qui vont de Saumur à peu près jusqu'à Oudon. Et il a mené une carrière en Italie pour revenir à Paris après son voyage italien. Et donc, ce qui explique son inhumation à Notre-Dame, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Faire parler les morts, c'est un travail de fourmi. Il faut rapprocher les éléments historiques et les traces laissées sur les ossements. Comment Joachim du Bellay a-t-il pu être formellement identifié?
Alors, c'est pas tout à fait formel. Justement, il y a une petite polémique là-dessus et vous en parlerez sûrement, Marie-Lise. On a un faisceau d'indices qui correspondent à la vie du poète. Alors déjà, son âge. Il serait mort vers l'âge de 35-36 ans. Et les travaux réalisés ont démontré qu'il souffrait d'une tuberculose osseuse et d'une méningite chronique, deux maladies rarissimes. Son squelette était déformé aussi, preuve qu'il était un cavalier assidu. Et on peut aussi y ajouter la surdité et terrible maux de tête dont il souffrait à la fin de sa vie et qu'on retrouve aussi dans les écrits sur sa vie. Donc son âge et sa pathologie sont des arguments remarquables. Pourquoi Marie-Lise Six a-t-il été enterré à Notre-Dame? Est-ce que ce serait un dignitaire religieux? Est-ce qu'il y a des explications?
Ah oui, il y a bien évidemment des explications. Tout d'abord, il faut savoir que les dignitaires étaient laïcs ou religieux, étaient enterrés à l'intérieur de la cathédrale, ce qui est une spécificité de la cathédrale de Paris, puisque sinon les inhumations se faisaient à l'extérieur des édifices religieux, ad sanctos. Un faisceau d'indice évidemment très important, ce sont les marques de la tuberculose osseuse dont souffrait vraisemblablement Joachim du Bellay, puisque les dernières lettres qu'il a pu échanger ou que ses proches ont échangées indiquent qu'il est de plus en plus sourd, à tel point qu'il ne peut plus remplir ses fonctions de vicaire général. Il était vicaire général et évidemment, comme tout le monde le sait dans la région, alors son oncle ou son cousin, selon qu'on parle d'une filiation à la mode de Bretagne ou pas, était le cardinal Jean du Bellay, donc grand prélat qu'il avait emmené avec lui à Rome pour remplir des fonctions de secrétaire. Donc cette appartenance aux grandes familles du Bellay, les du Bellay étaient des grandes familles hein,
De l'Anjou.
Pas seulement de l'Anjou, de la cour. Et donc, explique vraisemblablement l'inhumation à l'intérieur de la cathédrale. Mais il y a quand même un doute, puisque le deuxième sarcophage retrouvé est celui d'Antoine de la Porte. Et alors, certains spécialistes, archéologues, s'interrogent sur le fait de l'emplacement à la croisée du transept de ce sarcophage, puisque c'est une place absolument privilégiée. Et qui ne serait peut-être pas celle attendue pour Joachim du Bellay.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez été surprise par cette découverte ?
Ah bah bien sûr. Bien sûr, je crois que tout le monde a été surpris. On se réjouit puisque on n'avait pas trace des ossements de du Bellay depuis le remaniement de 1758. Donc, on savait qu'il y avait peut-être un corps qui pouvait être celui de du Bellay. Donc, évidemment, c'est une grande joie et peut-être qu'on pourrait lancer une sorte de croisade pour récupérer ces ossements dans la région.
Oui. Alors, il y a encore des doutes sur l'identité
bien
du
sûr,
corps. Hein.
Bien sûr.
Vous penchez plutôt quand même pour...
Moi, je ne suis pas médecin légiste.
Ouais, oui, c'est ça. Donc, c'est une querelle d'experts qui n'est pas close. En tout cas, on attend la saison 2. Mais on ne peut que rendre hommage au travail immense des équipes de l'INRAP, l'Institut National de Recherche sur l'Archéologie Préventive. Alors, tout de suite, parlons de l'homme. Qui était ce Joachim du Bellay ? On a dit tout à l'heure que vous étiez la présidente des Lyriades de la langue française. Alors, expliquez-nous l'objet de cette association et quel est le lien entre cette association et Joachim du Bellay ?
Alors, donc, Joachim du Bellay est né à Liré, au château de la Turmelière. C'est à quelques kilomètres d'Ancenis. Hein. En 1522, on s'accorde à peu près sur cette date-là, bien qu'il y ait encore aussi des polémiques sur la date de naissance. On n'a pas de preuves, en fait, vraiment officielles. Et donc, l'Université d'Angers a organisé en 1989 un congrès international autour du poète Joachim du Bellay. Et c'est de là qu'est née l'idée de pérenniser un petit peu la transmission des savoirs sur Joachim du Bellay et de créer, donc il y a eu des journées d'études qui s'appelaient les journées des Lyriades, hein, avec un concours d'une volonté politique à ce moment-là. Et donc est née petit à petit cette association qui a eu pour ambition, hein, mais hélas le projet n'a pas abouti dans notre région, mais il a abouti à Villers-Cotterêts, d'une cité de la langue française.
Donc Lyriade, Liré.
Lyriade, Liré, oui. C'est L-Y pour notre association, par jeu de mots par rapport à la lyre,
à la lyre
poétique.
Et donc, le lien aussi avec le lieu où il est né, la Turmelière.
Là, c'est le même lieu. Hein. C'est le château de la Turmelière, c'était le château de naissance de Joachim du Bellay, qui a été détruit à la Révolution française et reconstruit un petit peu plus loin, un petit peu plus au-dessus des ruines actuelles, au 19e.
Alors, c'est peut-être l'occasion aussi de parler de l'ordonnance de Villers-Cotterêts dont vous avez parlé.
Tout à fait.
Expliquez-nous un petit peu.
Ben, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, et d'ailleurs, il faut rendre hommage encore à un angevin, là, est rédigée par Guillaume Poyet, hein, qui était proche de Louise de Savoie, et donc qui a été le rédacteur hein, de cette ordonnance, qui comprend 192 articles, mais dont deux seulement sont réservés à la langue française. Cette ordonnance stipule que les actes royaux, en fait, les arrêts royaux, les édits, hein, seront rédigés en langue française de manière à permettre la parfaite compréhension des textes.
Et alors en quoi du Bellay il s'est emparé de cette ordonnance ?
Bah, on ne peut pas dire qu'il se soit emparé de l'ordonnance.
Comment il l'a illustré alors ?
Bah, disons que son travail, la rédaction de ces deux livres de la défense et l'illustration de la langue française, qui est publié en 1549, s'inscrit dans cette dynamique-là de prise en main par la nation de la langue française, à la fois dans sa rivalité avec la langue latine, mais aussi dans ses rivalités, je mets ça au pluriel, avec les langues territoriales, les langues des régions.
Donc il voulait vraiment utiliser le français.
Oui, il dit c'est ma langue, hein, le français est ma langue. Mais c'est un débat qui s'inscrit dans une dynamique de l'époque, hein, et pas seulement en France, également en Italie. Il y a le traité des langues de Speroni. N'oublions pas qu'au XIVe siècle, Dante a écrit en florentin. Hein. N'oublions pas la volonté de Rabelais d'enrichir la langue, ça on connaît tous, hein, le tiers-livre, avec cette fabuleuse richesse créatrice de néologisme, d'un tas de mots très riches.
Donc là, on peut dire qu'il était presque militant de la langue française.
Il a été militant, oui, on peut le dire, parce qu'il fait œuvre de politique, en fait. Hein. C'est aussi une manière pour lui de faire carrière à la cour, hein, auprès d'Henri II. Quoi. Donc après, étant donné qu'il y a toujours ce conflit interne entre la pauvreté de la terre, en fait, qu'il possède, puisqu'il appartient à une branche cadette. Ce n'est pas la branche la plus riche, hein, des Dubélay. Et puis, cette volonté
De reconnaissance,
de faire une carrière officielle. Quoi.
Et son ouvrage, L'Olive.
Ben, le livre est le pendant pratique, si on peut dire, de la défense. La défense, défense et illustration de la langue française, c'est une œuvre théorique de réflexion et qui est illustrée par le recueil de l'Olive.
Marie-Lise Six, merci. Merci beaucoup. Alors, on va parler du musée très vite. Parlez-nous du musée.
Alors. Ah ben, le musée, moi, je ne suis pas spécialiste du musée, hein, mais vous pouvez... Alors, c'est un musée donc, qui est très, très... vraiment charmant, plein d'intérêt.
Il n'est pas dans la maison du poète, en tout cas pas dans la maison d'origine.
Ah ben voilà, non, puisque le château, il est aliéré au centre-ville, dans une maison plus ancienne, enfin qu'à peu près de l'époque. Mais le château, il n'y a plus que des ruines, hein, de la Turbellière. Et le musée est ouvert plutôt à la période faste, à partir de mars-avril jusqu'au octobre à peu près. Et là, vous pouvez découvrir un petit peu la vie du poète, ses œuvres. Il y a des animations aussi, et puis souvent, par exemple, des ateliers de calligraphie, des ateliers d'écriture. Il y a un escape game aussi qui a été organisé par la mairie. Enfin, voilà.
D'accord. Marie-Lise Six, merci.
Merci Bénédicte, merci aussi Marie-Lise Six. Vous êtes venue dans nos studios pour nous parler de Joachim Dubélay. Je rappelle que vous êtes la présidente des Lyriades de la langue française. Tous les collégiens de France connaissent d'ailleurs le fameux « Heureux qui commulisse ». C'est l'un des 191 sonnets des regrets écrits par Dubélay pendant son séjour à Rome. Le sujet n'est pas l'amour pour une femme, mais pour son pays natal, à savoir l'Anjou. C'est aussi une critique acerbe du milieu dans lequel il évolue là-bas, avec ses intrigues diplomatiques. Je vous propose maintenant une petite pause musicale en écoutant Ridan, qui nous interprète justement Ulysse.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front tout d'acier. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Au printemps dernier, Franche Culture a consacré une émission entière à Noëlla Rouget. Bénédicte, vous nous présentez aujourd'hui l'actualité autour de cette femme hors du commun.
Absolument hors du commun. Noëlla Rouget, c'était une résistante angevine arrêtée et envoyée en camp de concentration par un collabo français. Elle en revient très affaiblie mais vivante. Et lorsque ce collabo est enfin arrêté et jugé après la guerre, Noëlla Rouget demandera et obtiendra la grâce de cet homme auprès du général de Gaulle. Noëlla Rouget est toujours d'actualité puisqu'une conférence et une pièce de théâtre lui sont consacrées très prochainement en avril. Le 8 octobre, à l'espace Jean Guichard, une conférence intitulée « Noëlla Rouget, la déportée qui fait gracier son bourreau » par les auteurs de sa biographie. Et le 11 octobre, une pièce « Qu'aurions-nous fait à sa place ?» au théâtre Georges Brassens. Et bien sûr, vous pouvez réécouter le podcast de notre émission du 5 juin. D'ailleurs, je voudrais souligner que cette émission avait été réalisée grâce à une professeure d'histoire-géographie extraordinaire d'un lycée professionnel de Saumur, Marina Bossard, qui avait su rassembler et passionner ses élèves autour de Noëlla Rouget. Voilà Dominique.
Merci beaucoup Bénédicte pour cette petite info. Vous êtes toujours bien sûr sur Radio Campus, votre émission Franche Culture. Nous allons parler de la Collégiale Saint-Martin à Angers. Elle accueille une nouvelle installation créée par la compagnie Lucilum. Ce n'est pas la première fois que ce groupe d'artistes investit ce lieu. Et c'est encore, je crois, et j'en suis même sûr, une belle réussite, Marie.
Oui, Dominique. Il faut y aller. Les installations immersives offrent une expérience unique à chaque visiteur. Avec nous en studio pour en parler, Philippe Leduc, un des membres de la compagnie Lucilum. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Une installation, c'est créé par des artistes, mais ça n'est pas une exposition de leur œuvre au sens classique. Ici, c'est-à-dire à la Collégiale Saint-Martin, on entre dans un sas un peu sombre pour ajuster le regard à une luminosité qui n'est ni celle du jour, ni vraiment de la nuit, bien qu'elle s'en rapproche. Et ensuite, on entre dans l'espace de cet édifice religieux complètement transformé. Tout d'abord, on y voit une mer inversée. Alors Philippe Leduc, comment décrire cette installation?
Vous êtes au début, vous avez bien commencé. On voit une mer inversée et on va progresser à mesure qu'on avance sous ces vagues, sous ces flots, et on va petit à petit redécouvrir la collégiale, c'est-à-dire que petit à petit, il y a une sorte de collage qui opère entre les flots qu'on a mis en place, qui sont projetés sur une mer de tissu. Il y a 650 mètres carrés de soie synthétique qui flotte dans toute la nef et jusqu'au cœur. Et puis, à mesure qu'on avance qu'on entre à l'intérieur du monument, on redécouvre le monument aussi. C'est-à-dire que le collage opère entre l'architecture et tous les éléments qui sont projetés.
On peut tourner autour de certains piliers, on n'est pas obligé d'aller tout droit dans le cœur tout de suite.
On tourne autour des piliers, on peut se perdre, on peut jouer l'errance, on peut prendre son temps, on peut s'allonger, on peut choisir le point de vue, puisqu'en fait il y a plein de points de vue possibles entre le cœur, la nef, les transepts, la croisée de transepts. Selon les endroits dans lesquels on se sent bien, on peut se poser et puis prendre son temps et observer.
Alors, la première partie, ce tissu, cette soie synthétique sur laquelle sont projetées des images, se situe au-dessus de nous.
Au-dessus de nous.
Les piliers sont recouverts d'une toile ajourée, si j'ai bien vu. C'est un filet?
Non, ce n'est pas un filet. C'est une toile opaque qui permet de...
J'ai pas bien vu alors. Je l'ai regardé très sans toucher.
Tant mieux, c'est que vous n'avez pas regardé trop la technique, c'est bien.
J'ai un peu essayé de voir. Et donc, sur ces piliers sont aussi projetées des images.
Oui.
Voilà, je voulais parler, parce que comme vous le dites, je vais parler tout de suite de la technique. Est-ce que c'est facile de créer pour ce lieu? Parce qu'il y a quand même une prouesse technique. Est-ce qu'elle est recherchée, cette prouesse technique?
Non, on ne recherche pas à tout prix la prouesse technique. On cherche à être à la hauteur du lieu. Je pourrais dire ça un petit peu différemment. C'est-à-dire que on ne voulait pas créer un objet qui soit posé dans la collégiale, mais on voulait un objet global qui soit en dialogue avec la collégiale, qui fasse que les murs, le volume, le ressenti qu'on peut avoir en visitant la collégiale se retrouve à nouveau dans cette mise en scène, encore que, bien qu'on ait complètement tout métamorphosé, eh bien finalement,
elle
n'est pas masquée.
Les piliers, je les ai vus.
Oui.
On avance, comme vous dites, on va dans
elle
le
transept. Elle n'est pas masquée, on la retrouve.
Et on voit le cœur, on retrouve la hauteur.
On voit le cœur et on voit même des détails qu'on ne voit pas autrement.
Tout à fait. Quand on arrive dans le cœur, là, la toile, elle est
Face à nous.
Elle est face à nous, en fait, là où était l'autel. Mmh. Donc là, elle bouge à ce moment-là, et les images sont projetées sur la hauteur du cœur, qui est assez
Et les images
importante.
Sont projetées sur, voilà, dans un premier temps, on est sous la mer, et puis petit à petit, le niveau de la soie est abaissé, de sorte qu'on se retrouve au-dessus, en quelque sorte. Mmh. Et là, on voit encore d'autres éléments, puisque dans le transept, on est encore en dessous, puis dans le cœur, on domine la mer, en quelque sorte.
Alors, pas de prouesse technique, parce que c'est vrai qu'on on voit un petit peu, en fait. Alors, c'est pas du tout gênant, mais vous ne cachez pas, en fait. Vous ne cherchez pas à dissimuler, à créer un artifice. On voit les vérins, on les entend même un tout petit peu.
On entend un petit peu, oui.
Ça ne gêne pas du tout la visite.
Non, c'est comme un petit peu un ballet d'automate, on va dire.
Exactement, ça accompagne bien la musique.
Ça accompagne, oui.
Ça accompagne bien la musique. Alors, ce lieu, vous l'avez créé pour des visiteurs. Donc, là, en l'occurrence, j'y suis allée. Vous cherchez à créer des sensations, des émotions. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, qu'est-ce que vous voulez donner?
On l'a fait pour des visiteurs, on l'a fait pour le public. De toute façon, dans nos métiers, on travaille toujours pour le public. C'est le public qui valide la réussite d'un projet artistique. C'est le public qui nous dit qu'il a été touché, qui nous dit bravo, continuez. Enfin, voilà, ça, on guette ça. On a besoin de ce retour pour savoir si on a été juste. Donc, ce qu'on a cherché, c'est peut-être toucher chez la plupart des gens la part d'enfant qu'ils ont en eux. C'est toucher l'émerveillement, la capacité à s'émerveiller, à considérer cette nature, puisqu'il y a beaucoup d'images de nature.
Oui, c'est une évocation de la nature.
C'est une évocation, mais pas comme un objet qu'on contemple ni qu'on commente, mais un objet qui nous est propre, dont on fait partie, en fait, en quelque sorte. Toute cette mise en scène vise à faire écho à notre part de nature, à ce qui en nous resplendit aussi, à l'unisson avec ces vagues, avec les vagues, la lave, il y a un fœtus aussi.
Pas une nature statique, effectivement, et jolie à contempler, c'est tout est en mouvement.
Le mouvement égale la vie.
Est-ce qu'il y a j'ai l'impression de voir des feuilles ou des bouts de bois à un moment, peut-être que je me suis trompée.
Des
oiseaux
Il y a des oiseaux.
Wow, j'ai bien vu alors.
Il y a des oiseaux, il y a des fœtus de paille, il y a une foule,
une vraie évocation de la nature, mais on se l'approprie.
On se l'approprie, oui, c'est une vraie évocation de la nature, mais c'est pas de la belle image de nature,
même si c'est beau.
Et
qu'il n'y a rien d'angoissant.
Il n'y a rien d'angoissant.
Non, c'est très poétique.
Très poétique, oui.
Très en mouvement, très frais. La musique est.
La musique va avec. C'est travailler à l'unisson, enfin tout ça c'est conduit à créer une mise en scène globale. On parle d'immersivité. Bon, ça fait 40 ans qu'on fait des expos dans cet esprit-là, très immersive. Mais là, oui, on est vraiment immersif au sens où tout conduit à ce qu'on soit dans cette immersivité. Le décor, le son,
on s'approprie en tant que spectateur l'œuvre d'art.
On est au milieu de cette œuvre d'art. On entre dans un tableau.
On ne la contemple pas, on ne le lit pas un cartel.
On
vit un moment.
On n'est pas dans la contemplation, on n'est pas extérieur, on est dedans. On est dans l'œuvre.
Alors, ça fait à peu près une quinzaine de jours que c'est ouvert. Hein. Ça a commencé au Journée du patrimoine. Vous avez, je témoigne que j'y suis allée, que j'ai vraiment trouvé ça formidable, mais vous avez des retours, ça y est, là.
On a beaucoup de retours, oui, beaucoup de retours très, très positifs. Si on lit le livre d'or, les gens disent
ça
merci.
Y est, ouais, c'est,
merci,
c'est
ça
réussi.
Ça devrait être remboursé par la Sécu. On a des choses comme ça, vous voyez. Non, c'est réussi. C'est une réussite.
C'est pas votre coup d'essai à la collégiale, vous la connaissez bien.
Oui, on avait travaillé avec la collégiale pour Sylva.
Dans le même style, entre guillemets, une évocation de la nature.
Oui, aussi, dans le même style, c'était des arbres. Aussi une immersion. Aussi un superbe travail d'équipe avec l'équipe de la collégiale, parce que c'est un des rares endroits patrimoniaux en France où on a cette idée du patrimoine. C'est-à-dire qu'on sauve le patrimoine, on le met en valeur. On crée les collages avec l'art contemporain, avec la musique, avec des chorales comme Accentus, avec les rencontres littéraires. Il y a un travail qui fait vivre le patrimoine qui est assez vraiment très, très intéressant. Et puis, un grand travail de confiance. Quand on signe avec la collégiale, on sait qu'on va être soutenu.
Alors, vous avez travaillé dans un ancien édifice religieux, ça a été aussi, parce que vous l'avez fait, ce Profondeur, cette expo immersive, ça s'appelle Profondeur, vous l'avez fait pour ce lieu.
On l'a fait pour ce lieu, c'est une création, voilà. Absolument.
Donc oui. C'est un édifice religieux, il y a toute une histoire derrière.
Il y a un édifice religieux qui a 2000 ans d'histoire, qui a une crypte intéressante, qui a un bâti extérieur carolingien, c'est évidemment c'est pas 2000, ça nous rapproche d'aujourd'hui. Mais il y a sur ce site toute une histoire qui est tapis, qui est révélée, qui est prise en compte. Qui fait partie de la profondeur du site, voilà. Quand on met profondeur avec un S, c'est qu'il y a des profondeurs aquatiques, des profondeurs du cosmos, il y a des profondeurs de l'âme, des profondeurs du lieu aussi.
Effectivement, cette évocation de l'eau, c'est une importance essentielle dans la spiritualité chrétienne. Lucilum, la compagnie Lucilum que vous avez fondée, co-fondée, a 40 ans cette année.
Oui.
Bon anniversaire.
Merci. Merci.
Donc c'est l'exposition, l'installation phare de cette année ou...
Oui, absolument.
Ouais, c'est l'installation phare.
C'est l'installation phare de cette année. Ouais. Alors, c'est une installation qui nous permet
En deux mots, votre compagnie.
Alors Lucilum, on l'a créé il y a 40 ans. Le principe, ça a toujours été d'aller vers le public, de toucher un public. Moi, je suis d'Angers. Ma première rencontre avec l'art, c'était les affiches. J'habitais à Montplaisir, j'ai vu les affiches dans la rue qui m'ont amené à aller vers le centre-ville et à m'intéresser à la vie culturelle angevine. C'est-à-dire ce rapport qu'on peut créer entre une population et puis le rapport à la culture, ça a toujours été notre ADN. Notre ADN, ça a toujours été aussi de pas toujours tout expliquer, de laisser à chacun la possibilité de trouver son chemin dans une œuvre d'art, dans un projet artistique.
Vous n'êtes pas le seul ?
Non, je ne suis pas tout seul. Il y a donc à mes côtés Marc-Antoine Mathieu.
Qui est dessinateur,
auteur de bande dessinée. Et Elisa Fache, qui est scénographe à nos côtés. Et puis Isabelle Rabillon, qui est administratrice. On est une équipe de quatre.
Et il y a un musicien là.
Oui, à chaque fois, dans chacun des projets, on agrège des compétences, des talents, des gens qui font route avec nous depuis pas mal de temps, dont Patrice Grupalo, qui a composé de la musique.
Olivier Guillemin, qui est venu sur le lieu une fois l'installation faite.
Oui, il est venu sur le lieu pendant le montage au mois d'août. Pour ajuster ce qu'il avait déjà préparé à la réalité de l'espace, comment on ressent l'espace quand il est transformé tel qu'on l'a fait.
Ça se sent, c'est pas du tout artificiel, la musique, elle est vraiment...
Oui, et puis elle a été ajustée au lieu. Et puis Olivier Guillemin qui a travaillé avec nous pour les vidéos.
Et vous avez tous de la création de votre côté ou vous travaillez uniquement
On a tous de la création de notre côté. Marc-Antoine Mathieu, il est auteur de bande dessinée. Elisa Fache, elle est plasticienne. Et puis moi, je suis peintre aussi. Olivier Guillemin, il fait partie du groupe Zur. Et puis Patrice Grupalo, il a ses propres compositions musicales par ailleurs. Donc on se retrouve
pour des projets
enrichis de nos propres pratiques, mais ensemble depuis 40 ans.
40 ans. Vous êtes un des premiers à faire ça en France ou pas?
Quand on a fait les premières expos scénographiées sur l'affiche polonaise au Théâtre d'Angers, on était les premiers. Ouais. On était dans les premiers. Il y avait eu des expériences à Angoulême. On a beaucoup fait d'expos à Angoulême par la suite. Puis à la Grande Halle de la Villette, à Beaubourg.
Et partout dans le monde. Mais, ouais. On en a parlé tout à l'heure, vite fait, de Silva. Donc c'est deuxième installation à la collégiale. Il y aura une troisième.
Volontiers. Je
on dit ça.
Je ne lance pas les paris, mais...
On n'a pas très loin l'attaché de presse du département.
Ça nous ferait plaisir.
Oui, ça vous ferait. Eh bien, Philippe Leduc, merci beaucoup.
Merci.
Et j'encourage tout le monde à aller s'immerger à la Collégiale Saint-Martin pour cette installation qui s'appelle Profondeur. C'est jusqu'au 26 janvier 2025. Alors, c'est à la Collégiale Saint-Martin. Et pour avoir tous les renseignements pratiques, horaires, tarifs et toutes les activités qui sont autour de cette installation, il faut aller sur le site collégial-saint-martin.fr.
Merci beaucoup Marie pour cette expédition. Vous nous avez fait une très belle présentation, bien sûr. Moi, je rajouterais que la collégiale est ouverte gratuitement dimanche prochain, puisque c'est le premier dimanche du mois d'octobre.
Oui, en effet.
Voilà, c'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts. Merci beaucoup à Étienne pour la technique. Et puis on se retrouve évidemment un mercredi sur deux à 17h et le dimanche à 11h. Et puis bien sûr en podcast, car la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Je souhaite à tout le monde une très belle semaine. À bientôt.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.